marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le printemps arabe réveille le souvenir d'un autre printemps en février-mars. C'était en 1848. C'est l'occasion pour la marche de l'histoire d'inviter enfin une femme, Sylvie April. Bonjour.
Bonjour.
Sylvie April, qui est une vieille 48arde. 48arde, ça veut dire qu'on fait partie de la société des amis de la révolution de 1848. Ça veut dire que...
D'abord qu'on a participé à ce mouvement.
Ça veut dire qu'on publie une histoire de France 1815-1870, la fameuse collection de Belin, centrée sur cette période. Vous êtes professeur à Lille, tout a évidemment commencé à Paris. Le branle est donné par la France.
Alors, la France joue un rôle majeur, bien sûr, mais si nous regardons les événements à partir de janvier, des événements importants ont déjà commencé, et ont commencé en Italie, ont commencé en Sicile, à Palerme, et à Milan, où en janvier, pour s'opposer aux Autrichiens, eh bien, on fait une grève du tabac, puisqu'on ne fume plus pour ne plus payer de taxes à l'occupant, aux autorités autrichiennes.
Mais il est vrai qu'à Naples et à Palerme, au royaume des deux Siciles, il fait en janvier plus beau qu'à Paris en février. On dit que le vieux roi Louis-Philippe, 75 ans, dans une embrasure des Tuileries, a regardé le ciel gris. Il aurait dit, on ne fait pas une révolution par un temps pareil.
Il aimait à déambuler seul dans les rues de la capitale. C'est ainsi qu'il comptait devenir populaire. Erreur profonde. Le peuple de Paris préfère que ses rois conservent leur prestige et le cher homme de la sorte préparait à chaque pas la révolution de 48. 1848 après 1830, et les mêmes pavés redeviennent des barricades. Et c'est ainsi que se manifestait depuis des siècles le mécontentement populaire. Et périodiquement, Paris s'offrait ainsi le spectacle navrant de lutte fratricide, avec tout ce qu'elle comporte d'héroïsme et d'horreur et d'erreur.
Professeur d'université nous pardonnera, vous savez bien que le sentiment historique, Sylvie April, il est fait largement d'images cinématographiques. La plupart des films qu'on a choisis aujourd'hui datent de 1955, si Paris m'était compté, Sacha Guitry. Bah, une révolution, ça se reprend toujours.
Oui, alors de toute façon, je crois qu'il y a toujours ce côté inattendu, prévisible, parce qu'on trouve toujours des textes, évidemment, qui prédisent ces révolutions. C'est toujours des textes de Tocqueville ou d'Engels, donc toujours l'idée d'un volcan. Et c'est vrai que depuis au moins 1846, dans toute l'Europe, il y a des tensions très très fortes, il y a eu des violences très importantes. Et le 22 février, certains sont en train de célébrer un triste anniversaire, qui est celui de la répression qui a eu lieu en Galicie deux ans auparavant. Au moment même où à Paris il pleut effectivement, mais où on commence
la Galicie, la Pologne a donné le branle, c'est le château d'eau peut-être des révolutions de 1848, même si elle ne peut y participer directement. 22, 23, 24 février, le trône tombe, et d'ailleurs très vite les Tuileries, dont le roi s'est enfui, sont envahies, et on voit des scènes qu'on peut peut-être comparer à celles de Tunis ou du Caire, moins ordonnées quand même que celles que montrent les télévisions aujourd'hui.
Ah, alors nous allons faire de l'anachronisme. Non, oui, il y a des scènes à la fois effectivement d'invasion, mais aussi, ça on le voit surtout par les témoignages littéraires, hein, puisque le grand témoignage qu'on a, c'est le témoignage de Flaubert ou celui de Marie Dagout d'Daniel Stern. C'est des scènes à la fois où on va déplacer le trône, effectivement, hein, où symboliquement on va aller le brûler, le déplacer, mais c'est aussi, il y a quand même un certain respect, c'est-à-dire que on prend la place, on mime. Mais finalement, on ne va pas forcément tout détruire.
Attendez,
on ne brûle
Flaubert,
pas tout. On ne brûle pas tout.
Des galériens enfoncent leurs bras dans la couche des princesses et se roulent dessus par consolation de ne pouvoir les violer.
Oui, mais c'est dans la couche. C'est pas, il n'y a pas de, si vous voulez, quand même de scène de transgression. on est quand même dans une transgression qui n'est pas très violente. On ne détruit pas tous les monuments. Il y a quand même, il y a une violence symbolique qui est forte. Je vous l'accorde, mais.
On mime et on chante.
Et on chante beaucoup.
Le chant des Girondins.
Le roi de
Voilà les hommes, la poitrine nue, et puis les femmes, modèles, les femmes qui participent beaucoup d'ailleurs à la révolution de 1848.
Oui, alors il y a participation, le problème ça sera les déceptions qui suivront, parce que la participation aux revendications obtenues, elles sont faibles, hein, on le voit dès mars, puisque le suffrage sera refusé aux femmes, hein, ce suffrage universel sera masculin, mais c'est vrai qu'elles participent, mais de façon, j'allais dire, presque traditionnelle aussi, hein, cette participation des femmes, elle est toujours très forte, parce que ces mouvements sont aussi des mouvements sociaux, hein, ce sont des mouvements politiques, des aspirations à la liberté, mais aussi des mouvements sociaux, des moments de revendication dans des périodes de difficultés économiques. Et on sait très bien que les femmes qui sont toujours au premier plan de ces problèmes de consommation, elles sont présentes forcément donc dans ces mouvements qui au départ sont des émeutes et deviennent des révolutions.
Alors les femmes signent des pétitions par dizaines. Ce sont les hommes quand même qui composent les chansons qui sortent des salons, des caveaux, des goguettes qui sont sur la place publique. Le plus grand chansonnier peut-être de l'époque, il est lyonnais d'origine, c'est Pierre Dupont.
Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Mouvons les flots de nos sueurs, nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise au monde. Vivons, vivons, vivons à l'indépendance du monde.
Une caricature à la une du Canard enchaîné l'autre jour, les maîtres du monde arabe. La fenêtre est ouverte, ils sont réunis autour d'une table. Fermée, cette croisée, on sent le jasmin. Alors là, les dirigeants européens devaient, entendant cette chanson « Buvons à l'indépendance du monde », être très inquiets de ce qu'allait faire la France, qu'on avait mis sous cloche depuis 1815, pour que la flamme qu'elle représentait soit un peu bridée.
Oui, alors il y a à la fois une attitude, il n'y a pas une solidarité très forte avec Louis-Philippe, hein, on le sent bien, on laisse un peu tomber ce régime, mais on a très peur de ce qui peut se passer après, bien sûr, et on a très peur de ce que l'on... Enfin, l'expérience, hein, de la Révolution française, c'est la grande nation, c'est-à-dire le fait que la France, hein, risque d'apporter à nouveau la Révolution par son épée, et non pas seulement par ses idées. Donc on a peur quand même, hein, d'une politique qui serait une politique où la France tirerait sa revanche, en quelque sorte, hein, d'une diplomatie qu'il a laissée totalement de côté, même s'il a fait des tentatives pour revenir, et ce, avec l'Angleterre. Donc là, on a un retour. Et la France va tout de suite, hein, très vite, dès les premiers jours de mars, affirmer justement le fait qu'elle n'a absolument pas pour ambition de porter de façon militaire, hein, sa révolution vers,
oui,
l'extérieur.
Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire, c'est Lamartine. Nous aimons la Pologne, nous aimons l'Italie, nous aimons tous les peuples opprimés, mais nous aimons avant tout la France et nous avons la responsabilité de ses destinées.
Oui, alors Lamartine va avoir un jeu qui est un jeu diplomatique tout à fait mesuré, qui va être à la fois de recevoir des délégations de chacun des peuples qui sont présents par les exilés qui sont à Paris à ce moment-là. On va les recevoir, on va les entendre, et puis on va surtout donc faire ces déclarations qui sont des déclarations très très apaisantes. On va tenter quand même d'aider des mouvements. Les Français vont applaudir le départ de toute une légion de polonaises, comprenant des Polonais exilés et des Français, dont Nada, qui vont partir justement pour aider la Pologne.
Mais si le gouvernement provisoire français traîne des pieds, même si les trains qui transportent les légions de volontaires sont rares, quand même, les souverains, ils ont des raisons d'être inquiets, parce que c'est à la vitesse d'une épidémie que se répand l'idée de révolution. Et il n'y a pas besoin de réseaux sociaux pour ça.
Oui, alors le terme d'épidémie, disons, de diffusion, de contagion, il n'y a pas besoin de réseaux sociaux, non, parce que de toute façon, l'information circule. L'information circule d'abord parce qu'il y a quand même des moyens de communication à l'intérieur même des pays. Hein, Londres est au courant de la révolution moins d'un jour après qu'elle soit déclarée à Paris. Donc, et puis il y a la rumeur, cette rumeur qu'on voit toujours de façon négative, elle peut être aussi quelque chose de positif qui fait que les informations circulent. Et donc l'information, elle est à peu près partout en Europe, 4-5 jours, hein, et on sait qu'à partir de Vienne, on a des réseaux d'information qui repartent vers l'Italie. Et qui repartent. Donc il y a bien sûr des craintes très très vives, et puis des espérances bien sûr populaires très fortes, et qui vont enclencher des mouvements simultanés, hein, et des mouvements qui vont effectivement faire boule de neige. À partir du moment où Vienne est en insurrection, eh bien les Italiens vont se dire qu'ils peuvent tout à fait se révolter.
Alors Vienne, alors allons-y. À la présidence de la table des maîtres de l'Europe, il y a l'Autriche, parce que on a mis la France sous cloche après la défaite de Napoléon, et puis on a constitué un système dont le verrou est l'Autriche, puis il y a deux sphères d'influence, l'Italie, que vous avez beaucoup cité, et puis l'Allemagne, qui est pulvérisée en des dizaines d'États, même si quelques-uns, comme la Prusse et la Bavière, ont une taille critique.
Oui, alors il faut effectivement remettre tout cela en perspective. L'Autriche, à ce moment-là, hein, c'est l'empire des Habsbourg, hein, c'est-à-dire ce qu'on appellera après la monarchie austro-hongroise, mais là, ça couvre toute cette zone-là. Et l'Autriche domine aussi l'espace germanique, hein, puisque finalement, c'est aussi le maître d'œuvre d'une possible unité allemande, mais qui dépasserait largement le cadre de l'Allemagne unitaire telle qu'on a pu la connaître. Donc, on a un poids très très fort de Vienne qui contrôle à peu près tout l'espace. Il ne faut pas non plus oublier l'importance de la Russie, hein, qui est le gendarme de l'Europe aussi à ce moment-là.
Donc, ces pays veulent le calme, pays, voilà. L'ordre et la discipline. Dans la sphère germanique, la révolution va intervenir très vite. Alors, il y a des mouvements à Francfort, il y a des mouvements à Berlin. Je vous propose toujours de suivre le chemin du cinéma. Nous sommes en Bavière, à Munich. Je sais que vous êtes, Sylvie April, une historienne des sexes et des genres. Et là, c'est une femme qui a joué peut-être un rôle important dans la Révolution. Lola Montès était très contestée. Elle était la maîtresse du vieux roi Louis Ier.
Nous exigeons que le roi la chasse et qu'elle quitte la Bavière immédiatement.
Presque rien. Ce sont les étudiants, oui, les commerçants, les bourgeois, les professeurs, enfin du populo, quoi.
Cela ne me paraît pas très inquiétant. Je ne sais pas ce qui leur prend.
Ce ne serait pas une révolution.
Si ça s'arrête, c'est une émeute. Si ça continue, c'est une révolution.
Il ne faut pas que tu restes ici. Il ne faut pas. S'ils sont en train de fabriquer une journée historique, il faut qu'ils te trouvent à ta place. Dans ton rôle.
Dans quoi ?
Dans ton rôle de roi.
Les choses viennent toujours en leur temps. Même les révolutions.
Voilà le rôle historique de Martine Carole. Je sais que vous allez me reprocher de faire dans l'anachronisme. Enfin, la reine de Jordanie, elle est impopulaire parce qu'elle est étrangère. La femme du président tunisien, elle était impopulaire parce qu'elle était prévaricatrice, qu'on reprochait à Lola Montès, oui, à Munich, le 9 mars. 1848.
Oui, donc c'est vrai que c'est à Munich, hein, aussi que les événements vont aller très vite en raison, hein, de cette situation qui déjà a créé des tensions depuis janvier. Il y a des mouvements très 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 forts. Les étudiants dont parle l'extrait. Alors Lola Montès, effectivement, ça peut paraître anecdotique, mais en même temps c'est une de ces femmes aussi très étonnantes de cette Europe. Elle circule beaucoup en Europe. Elle est irlandaise en fait, hein, Lola Montès. Elle a vécu en Inde. Elle est revenue ensuite présenter donc des spectacles soi-disant espagnol. Donc on a quelqu'un comme ça qui a circulé et qui est venu à Paris aussi, qui a rencontré George Sand, hein. Donc elle est à la fois là dans ce personnage à ce moment-là, l'étincelle qui va faire surgir aussi la révolution, mais en même temps elle témoigne de cette circulation aussi des gens, des idées d'une certaine manière. Bon, elle incarne aussi cette Europe en mouvement.
Munich, Berlin, plus encore Francfort, le populo, comme il est dit dans le film, ça a été, le populo sont les bourgeois, les étudiants et les professeurs. Ils discutent surtout quand même constitution. Oui. La révolution de 48, c'est la révolution des peuples constituants.
Oui, alors c'est pour cela aussi qu'on a parfois du mal en France à s'intéresser à ce qui nous paraît un petit peu dépassé pour nous, parce que la France a déjà des constitutions, la France ne réclame pas à ce moment-là une constitution, elle réclame la République. On aura des mouvements républicains aussi dans de nombreux pays européens. Mais c'est vrai que la première demande, c'est une demande de liberté de la presse, hein, je crois que d'abord c'est l'explosion de la presse qui est importante aussi, et puis ces constitutions. Et la constitution qu'on réclame, c'est pas forcément une constitution avec un modèle français, c'est soit une constitution héritée un petit peu de l'Empire, enfin de, pas l'Empire de l'Angleterre, soit de la constitution américaine, soit aussi d'une constitution qu'on oublie souvent de citer, qui est la constitution de Cadix de 1812, qui est une constitution qui reste monarchique, mais qui est une constitution qui malgré tout intègre la souveraineté populaire.
L'Espagne donc.
Voilà, l'Espagne.
Et toutes ces recherches se font dans tous les pays d'Allemagne, comme dans les autres, avec le drapeau. Pas le drapeau français, le drapeau de chaque nation. Ce qu'on voit, pardonnez encore l'anachronisme, dans les images de Bahreïn, de Tunis ou du Caire.
Oui, alors si je voulais faire de l'anachronisme, on avait aussi resurgir d'autres drapeaux en Libye, un drapeau plus
oui,
ancien,
le drapeau de l'indépendance. L'indépendance.
Mais oui, alors c'est effectivement c'est pour ça que chaque révolution a sa spécificité, sa particularité, hein, parce que on va la faire au nom de sa nation, alors qui est parfois une nation qu'on veut unie, en Allemagne ou en Italie, hein, on le fera au nom d'un drapeau unitaire, on la fera au nom d'une volonté nationale, une volonté nationale qui sera donc forcément indépendantiste et séparatiste, comme c'est le cas pour la Hongrie, par exemple, ou pour la Roumanie. Donc, on a des mouvements qui peuvent nous apparaître comme nationaux, mais avec des nations à des échelles tout à fait différentes.
Alors, la Hongrie et la Roumanie font partie de l'Empire austro-hongrois, au moins en partie. Grâce à vous, on peut baigner dans l'anachronisme, et Franck Olivard, qui choisit pour nous les extraits de films, se sent délivré. Voici que maintenant, nous allons passer en Autriche, nous sommes à Vienne, plus avec le Lamentès, la dame de Bavière. Ruby participe au bal de l'opéra de Vienne, nous disaient les informations aujourd'hui. Sissi était à l'époque, ou presque, eh bien l'impératrice ou la future impératrice. Alors, voilà que de partout dans l'Empire, multiforme, des révoltes éclatent, en Hongrie que vous citiez, ou bien à Prague, chez les Tchèques.
Sa Majesté.
Veuillez nous laisser seuls, je vous prie.
Alors que m'apportez-vous, Excellence?
L'arrêt condamnant à mort les coupables de la rébellion de Prague.
Ils appartiennent à quel milieu?
Ce sont presque tous des étudiants, des artistes.
Et est-ce que vous pensez que leurs actes sont de nature à justifier une telle sévérité?
Absolument, sire. Rébellion, appel au désordre, menace contre votre personne.
C'est bon, j'étudierai le dossier.
Mais, et sire, on attend votre signature. L'exécution ne peut être remise et doit avoir lieu demain.
Mais cette décision me paraît un peu hâtive. Condamner 8 personnes à mort est une très grave responsabilité.
Majesté, la condamnation que je vous demande de signer a été décidée à l'unanimité par le Conseil de guerre.
Possible. Non, je veux revoir le dossier.
Sire, son Altesse impériale, l'archiduchesse Sophie, a déjà donné son accord.
Je crois m'être fait suffisamment comprendre.
Majesté,
je vous remercie.
Oui, alors évidemment, le jeune empereur qu'on entend là dans le film Sissi, 1955, encore un film de 1955, interprété par Karl Ernst Böhm, il n'est pas vraiment empereur encore en 1848, c'est 48 qui va le faire empereur.
Oui. C'est 48 qui le fait en propre, puisqu'il arrive à une date qui est importante, mais pour d'autres moments, c'est de 2 décembre 48, en fait, qu'il devient empereur. Et en fait, il succède à son oncle, qui fait partie de ces gens qui sont justement des souverains tout à fait contestés, parce que lui, ça, la contestation, le fait qu'il est épileptique et qu'il est bon, assez diminué intellectuellement. Donc, l'arrivée, enfin, l'anachronisme, donc Sissi ne peut arriver au pouvoir, effectivement, que grâce, en quelque sorte, à cette révolution qui va permettre d'accélérer le mouvement et de donner, donc, à François-Joseph la possibilité d'arriver pour longtemps, très longtemps, donc sur le trône.
Et puis, le ton léger, sentimental, qui est celui de ce film, et qu'aime cultiver l'Autriche en 1955, comme en 1847 ou 48, il est un peu déplacé. Les empereurs, celui qui a précédé François-Joseph lui-même, c'était des bureaucrates autoritaires qui n'avaient pas toujours cette attitude bienveillante vis-à-vis de la revendication des nationalités de leur territoire.
En même temps, justement, si on prend le cas de Sissi, elle saura tout à fait se faire aimer des Hongrois. Il y a toute une politique, justement, d'encouragement à une présence forte. Donc, elle a appris l'Hongrois, par exemple. Hein, bon. Donc,
c'est vous qui parlez des femmes, là, Sylvie.
Oui, c'est moi qui me laisse aller. vers Sissi qui n'est pas notre sujet. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a, souvent des, comme ça, des rôles qui sont donnés et qui montrent que même ces régimes autoritaires, parfois quand même, n'ont pas toujours des femmes qui sont les causes de la corruption, mais des femmes qui peuvent jouer un rôle aussi de modération et les tâches peuvent être aussi partagées.
Alors ça va durer des mois et des mois en Autriche comme ailleurs. Elie Béji, l'intellectuelle tunisienne, dit tout le monde sort sur la place. Chacun des sujets de mécontentement est devenu ingouvernable. Pour un oui ou pour un non, on manifeste.
Ah, alors oui.
Les pays deviennent un immense cahier de doléances.
Un immense cahier de doléances, oui, et ça permet, je crois, pour l'historien de mieux comprendre la façon dont on reconstruit parfois après hein, des événements. On a souvent parlé pour 48 hein, de l'illusion lyrique, donc de ce moment où tout le monde s'embrasse, s'aime, hein, où on bénit des arbres de la liberté. En réalité, on sait très bien que dès le 25 février, les revendications du droit au travail sont fermement présentées, qu'il y a des mouvements le 17 mars à Paris, comme on en voit aussi en Tunisie, c'est-à-dire où les gens sentent bien que leurs revendications ne vont pas forcément être portées par les gouvernements provisoires qui se mettent en place et qu'il faut absolument les rappeler et les rappeler dans la rue à nouveau, c'est-à-dire redescendre dans la rue pour manifester que finalement on n'a pas simplement renversé un gouvernement, mais qu'on aspire aussi à autre chose et à autre chose qui n'est pas simplement un bulletin de vote.
Alors, revendication de salaire, mouvement des ouvriers qui sont souvent très éduqués à l'époque, on n'a pas parlé ni de ce qui se passe à Bruxelles, ni de ce qui se passe dans les sphères socialistes. Allez, dernier extrait de film. C'est un film, je suis désolé, qui s'appelle La femme de Marx. C'est un film plus récent, 1993. Michel Vigne. Et là, je vous fais grâce du rôle de Jenny Marx. Nous sommes à Bruxelles le 3 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 1848. Marx et Engels sont dans la même pièce.
Non, Engels, la forme actuelle ne convient pas. Profession de foi, ça fait catéchisme. Les militants vont se taper sur les cuisses quand ils entendront ça.
Oh, mais tu préfères déclaration ?
Les petits bourgeois.
Proclamation.
C'est mou.
Exposé.
Abstrait.
Manifeste.
Manifeste, manifeste. Manifeste du parti communiste. T'as trouvé, monsieur, c'est ça ?
Docteur Marx, Charles ?
Oui, chez moi.
Monsieur, veuillez nous suivre sans résistance. Nous avons l'ordre aussi de fouiller toute la maison. Allez, tout le monde dehors.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Alors, est-ce qu'on a majoré, à cause de ce qui s'est passé ensuite, de manière rétrospective, l'importance du socialisme en 48 et l'importance dans le socialisme du marxisme ? Débutant.
Alors Marx est déjà un personnage important qui circule dans toutes les sphères un peu socialistes et révolutionnaires à Londres, à Bruxelles. Le 3 mars, justement, est important pour Marx parce que c'est le jour où il, à la fois, là on le voit, bon, parler du manifeste qui est publié déjà ou qui est en cours de publication, que peu de gens connaissent à ce moment-là, évidemment, au moment où les révolutions se mettent en marche. On peut pas dire que les gens ont à la main le manifeste, c'est impossible. Mais Marx, ce jour-là, par exemple, c'est très significatif, est expulsé de Bruxelles parce qu'on pense qu'il y a juste titre qu'il prépare hein, une révolution soit pour l'Allemagne soit pour la Belgique et il est le même jour invité par le gouvernement provisoire français à se rendre à Paris pour prendre part, pour voir, pour discuter donc de ces mouvements. Donc le socialisme est présent, bien sûr, et toutes les idées socialistes qui se sont développées depuis les années 1840 à Paris, mais aussi dans les ateliers ouvriers à Lyon et dans d'autres endroits, jouent un rôle majeur. C'est peut-être justement la grande nouveauté aussi, en dehors de ces revendications constitutionnelles, c'est la place que vont jouer les socialistes et les idées socialistes.
Alors vous parlez de pluriel, parce que les marxistes ont ensuite dénigré le socialisme utopique des années 1840 comme étant une sorte de maladie infantile.
Oui, alors il faut peut-être, évidemment, Marx a voulu effectivement critiquer, c'était normal, hein, je crois qu'il y a la critique qui est faite de ce qui était auparavant pour montrer la nécessité de revendications nouvelles paraît évidente. Je crois que ce que Marx ne conteste pas, c'est l'importance de la formation, de l'éducation qui s'est faite par les ouvriers via ce socialisme qui quand même avait pénétré très largement les milieux des artisans et dont on voit la trace dans l'éducation justement que vous mettiez en avant de ces ouvriers qui sont tout à fait à même d'avoir une pensée politique déjà construite, justement de ne pas accepter simplement qu'on leur donne un bulletin de vote.
On s'est interrogé beaucoup sur l'effervescence religieuse dans les pays arabes. 1848, c'est une révolution du christianisme. Le Christ apparaît comme le Christ des barricades. Alors, aux yeux de beaucoup.
Oui, il y a le Christ des barricades. Il y a aussi à Vienne des pillages de couvents. On n'a pas forcément partout la même façon de penser la relation avec le religieux. Les tensions sont parfois fortes. Il y a des endroits où les tensions sont fortes. Mais c'est vrai que au départ, les curés n'ont pas forcément été hostiles. Et le premier vote en France, le 9 avril, se fait un dimanche après la messe.
Oui, parce que recherche du consentement unanime par la Constitution, grande fête collective. On a dit que c'était la révolution de la fraternité. Le mot fraternité revient très, très fort aujourd'hui.
Oui, mais comme on va soulever parfois, c'est la fraternité avec qui et de qui. Donc là, il y a pas mal d'ambiguïté puisqu'il y aura des retournements et des frères qui pouvaient sembler frères dans une situation donc d'oppression vont parfois se retourner les uns contre les autres, manipulés parfois, comme on le voit donc dans le cadre de l'Empire autrichien. Il y a aussi des mouvements de xénophobie par rapport à des ouvriers étrangers qu'on va renvoyer brutalement de France vers l'Italie ou la Belgique. Il y a des mouvements par rapport aux Juifs qui sont d'émancipation parfois, mais aussi parfois de violence. Donc, pour cette fraternité, c'est parfois un discours, c'est aussi une inspiration, mais pas forcément une réalité.
Et très vite, nous sommes le 3 mars, moment de l'arrestation de Marx à Bruxelles, veille du vote de principe de l'abolition de l'esclavage à Paris. Ce sera la décrue. Juin 48 à Paris, journée insurrectionnelle, triomphe de la réaction. Octobre 1848, le choix d'une constitution présidentielle. Et en décembre 1848, allez, je précède de quelques mois les échéances d'aujourd'hui. C'est un Louis-Napoléon Bonaparte qui est élu au suffrage universel président de la République.
Bonjour aimable République, je m'appelle Napoléon. Des rois ont signé ma supplique, prince, je vous offre mon nom. Défunt mon oncle qu'on renomme, à votre sœur fit les yeux doux. Pour votre époux, me voulez-vous, lui disait-il et craque sous les verrous. Je veux imiter ce grand homme, république, marions-nous.
Mais laissons, c'est ça l'histoire, l'incertitude.
Oui, parce que le grand homme en février, à ce moment-là, c'est Lamartine et il fait un score absolument... lamentable, pourrait-on dire, au moment donc de l'élection. Donc voilà. Donc
et puis il faut qu'on retrouve l'occasion de vous revoir au long de cette
J'aimerais
année.
J'aimerais que ces parallèles ne donnent pas lieu à mon retour. Voilà.
1815-1870, un volume important de l'extraordinaire Histoire de France chez Belin. Sur notre site, d'autres références vous concernant, Sylvie April, et puis l'invitation au renouvellement pour nos internautes de leur abonnement à la marche de l'histoire.
De Paris, la Révolution gagna toute l'Europe.
Camille Poux-Jalaguier, Franck Olivard, Frédéric Martin, Jacques Sigal, qui conduit cette émission jusqu'aux autocitations de la fin, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, toute l'équipe réunie aujourd'hui.